RCF.
Que dit la Bible sur l'étranger, l'immigré ? On peut lire dans le Lévitique au chapitre 19, verset 18, le fameux « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et plus précisément au verset 33 et 34 « Quand un immigré viendra s'installer chez toi dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. C'est moi. » Le Seigneur votre Dieu. Père Yves Assaout, vous êtes bibliste, prêtre du diocèse de Quimper et Léon, donc dans le Finistère. La question de l'étranger, de l'immigré dans la Bible vous touche particulièrement. Alors pourquoi ?
Parce que ma vie de prêtre s'est déroulée beaucoup en dehors du diocèse. J'ai été envoyé comme professeur de Bible au grand séminaire de Yaoundé, où il y avait des Africains de quatre pays qui se préparaient à être prêtres.
Yaoundé, c'est le Cameroun ?
C'est le Cameroun. Et j'ai été aussi en Bolivie, au moins 4 mois chaque année pendant 14 ans, pour des formations bibliques. J'ai été, après avoir été au grand séminaire à Yaoundé, je suis allé au nord du pays. Et j'ai été donc en contact avec des Africains de langues et d'ethnies différentes, et aussi avec des missionnaires de beaucoup de pays, de Suisse, du Québec, de Hollande.
D'Amérique latine
récemment, oui. Il y avait 2 Colombiens là où j'étais récemment.
Il semblerait que vous ayez même traduit le Nouveau Testament dans une langue, un dialecte du Cameroun.
On peut dire une langue, hein. Un dialecte, normalement, c'est à l'intérieur d'une même langue quand les gens ne parlent pas tout à fait pareil mais se comprennent. Alors là, c'est des véritables langues. Il y en a 200 langues locales à peu près au Cameroun. Et de fait, avec un diacre père de famille dont c'était la langue originelle, on a traduit tout le Nouveau Testament en 7 ans, en prenant 1 mois chaque année pour le traduire.
Vous avez été vous-même étranger dans un autre pays.
Oui, j'ai bien ressenti ce que ressentent sans doute des étrangers chez nous aussi. En particulier le fait de ne pas comprendre certaines attitudes ou certaines expressions, de ne pas être compris nous-mêmes, ça m'est arrivé, oui.
Mais pourquoi souvent a-t-on peur de l'étranger ? Pourquoi l'étranger nous met souvent mal à l'aise ?
Parce qu'il est différent, parce qu'on ne comprend pas bien ses réactions. Un geste qui, pour nous, veut dire une chose banale, peut-être pour eux, ça veut dire quelque chose de très important.
Comme quoi, par exemple ?
Je prendrais plutôt alors un exemple de... On se frappe la poitrine ici en Europe pour dire qu'on est, enfin, dans les monastères ou dans la liturgie, pour dire qu'on se reconnaît coupable. Alors qu'en Afrique, se frapper la poitrine, c'est plutôt s'affirmer dans son orgueil. Donc, c'est pas du tout la même signification.
Donc souvent, l'autre nous dérange.
Oui.
Alors vous êtes bibliste et donc vous êtes intéressé bien sûr à ce que disait la Bible sur l'étranger. Alors on a commencé à lire un passage en introduction du Lévitique. Il est dit très très clairement, tu aimeras l'étranger comme toi-même, car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. Alors les Hébreux ont manifestement été donc étrangers en Égypte. On connaît bien cette histoire où des Hébreux ont été même peut-être esclaves en Égypte. Est-ce que cette expérience qui est fondamentale, que les Hébreux se rappellent très très souvent, a pu influencer justement la façon d'aborder les étrangers dans la Bible ?
Certainement. Ils ne sont peut-être pas allés tous en Égypte, pas toutes les tribus, mais ceux qui y sont allés ont d'abord été très bien accueillis, d'après le récit de la fin de la Genèse et du début de l'Exode, les fils de Jacob, puisque Joseph était déjà en Égypte dans un poste très important de pouvoir et d'honneur. Donc le pharaon de l'époque les a bien reçus, mais par la suite... Au cours des siècles, ils ont été plutôt opprimés, on se méfiait d'eux parce que les Égyptiens pensaient qu'en cas de conflit, ils pourraient être D'accord avec les ennemis de l'extérieur et donc constituer un groupe d'ennemis de l'intérieur.
Oui, puis aussi, ils avaient beaucoup d'enfants.
Oui, se multipliaient d'après le premier chapitre de l'Exode et pullulaient même. Mais on peut penser aussi que les Égyptiens les voyaient comme des gens étranges aussi, puisqu'ils n'avaient pas la même religion qu'eux, ils n'étaient pas des mêmes coutumes qu'eux. Alors, est-ce qu'ils ont été vraiment esclaves, pas comme les esclaves des États-Unis au XVIe ou XVIIe siècle, mais parce qu'on voit que quand même quand ils sortent d'Égypte, quand ils fuient ou quand ils sont expulsés, ils ont des troupeaux. Et même les plaies d'Égypte parlent de leurs troupeaux aussi. Mais ils étaient soumis à des corvées très très dures, oui.
Oui, en fait, c'était un petit peu comme, on sait bien qu'il ne faut pas faire trop d'analogies, mais on pourrait peut-être dire des ouvriers étrangers, comme on peut en trouver par exemple en France aussi.
Oui, mais de manière plus organisée par le pouvoir du pharaon.
Oui, les pharaons les gardaient sous leurs bottes. Il y avait un
Oui,
pouvoir
alors
autoritaire, en
ils
fait.
avaient des briques à fabriquer et quand ils ont commencé à protester contre leur... Quand Moïse et Aaron ont commencé à protester contre les conditions de travail et surtout à dire au pharaon qu'ils devaient s'en aller, à ce moment-là, on leur a dit de faire le même nombre de briques mais sans leur donner la paille pour mélanger avec l'argile et donc ils devaient chercher eux-mêmes l'argile, la paille et faire le même nombre de briques quand même. Alors ça, c'est devenu de plus en plus difficile.
Vous-même, vous avez été auprès de populations pauvres en Afrique, des populations qui ne savaient même ni lire ni écrire. Vous savez combien ça peut être harassant, ce travail de physique?
C'est harassant quand on a peu de moyens techniques. Quand on travaille à la houe dans les champs, quand la chaleur est très forte, quand c'est la période de la soudure où on a peu de nourriture, oui, c'est très fatigant.
Alors revenons à nos Hébreux qui étaient donc et qui ont vécu aussi étrangers, entre autres en Égypte. Et puis on sait qu'après aussi, souvent les Hébreux ont vécu ce qu'on appellerait aujourd'hui en diaspora. Au moment de l'exil aussi, ils sont partis dans d'autres, par exemple en Babylone, etc. Donc en fait, les Hébreux savent ce que ça veut dire être étrangers. Alors comment eux, ils vont vivre face aux personnes qui sont étrangères et qui venaient dans leur pays?
Là, je pense qu'il y a eu une révélation de Dieu, en particulier à travers les prophètes. Le texte que vous avez cité tout à l'heure, même s'il est dans le Lévitique, il n'est pas tellement ancien. Et c'est sous l'influence des prophètes que les fils d'Israël ont pensé que Dieu leur demandait d'aimer l'étranger qui vivait au milieu d'eux.
Comme soi-même.
Oui, là, c'est
C'est
très fort.
fort.
Dans ce texte du
C'est
Lévitique,
très,
c'est
très
très, très
fort.
fort.
Aime l'étranger comme toi-même.
Ben, si on se reporte à l'expérience qu'on a vécue soi-même dans un autre pays, oui, c'est une manière de s'aimer comme soi-même, enfin d'aimer les autres comme soi-même.
Hey, muño mi euta. Pona pa kawulete. Alla ta kunya uta kinya undigo. Bai. Mohiro ani wo yenai mo. Mo de po ani wo kansai mo. Mo karamo kojo ani wo ovindai mo. Mo lando ani wo o hambai mo. Mo anna bi jopi wo te fantate.
Père Yves Saout, nous parlons de l'étranger, de l'immigré dans la Bible. Et bien sûr, on va repartir des grands personnages bibliques. Abraham, Abraham lui-même, qu'a-t-il vécu face à cette question de l'étranger? Il a été lui-même aussi un étranger.
D'après le récit de la Genèse, il est étranger dans ce pays vers lequel Dieu lui a dit d'aller.
Donc il a quitté son pays et puis il est parti.
Doublement, il a quitté d'abord Ur en Chaldée avec son père, et puis ensuite, quand il s'est installé en haute Mésopotamie, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate, là, il a attendu la mort de son père et il a entendu encore une parole de Dieu lui disant d'aller vers le pays que Dieu lui montrerait. Donc il est parti sans savoir où il allait finalement. Et quand sa femme Sarah est morte, il a demandé respectueusement aux gens du pays de lui vendre une parcelle de terre, une propriété, pour pouvoir enterrer sa morte, comme il dit. Et il a voulu le faire vraiment dans les règles juridiques du temps, de manière très, très précise.
Alors on va lire ce texte dans la Genèse, Genèse 23. Sarah mourut dans le pays de Canaan, à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron. Abraham vint célébrer les funérailles de Sarah et la pleurer. Puis il se releva et s'éloigna de la morte pour parler au fils de Heth. « Je vis avec vous, dit-il, comme un émigré et un hôte. Cédez-moi une propriété funéraire parmi vous pour que j'ensevelisse la morte qui m'a quitté. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en ces termes. « Écoute-nous, mon Seigneur, Dieu a fait de toi un chef au milieu de nous. Ensevelis ta morte dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun de nous ne t'interdira son tombeau pour la sépulture de ta morte. » Donc tout de suite, un accueil.
Oui, mais qui va se révéler assez rusé quand même, parce que quand Abraham va proposer de payer, les gens du lieu vont lui dire non, prends gratuitement. Mais quand il va insister, à ce moment-là, ils vont lui dire quand même une somme assez importante.
Donc on peut dire que Abraham a dû demander aussi hospitalité.
Oui, alors ce récit a sûrement été gardé par les Hébreux des siècles suivants pour dire même nos ancêtres étaient vraiment propriétaires de la terre promise, au moins pour cette petite concession que Abraham avait obtenue des gens du lieu.
Oui. Il l'avait bien payé, donc c'était bien la terre d'Abraham. Et quant à Isaac ?
Alors Isaac a dû aller dans la région qui sera plus tard celle des Philistins, mais à l'époque, c'est anachronique, il n'y avait pas encore de Philistins par là, mais le récit parle de Philistins. Et il est devenu riche, il a fait de bonnes récoltes, ses troupeaux se sont multipliés, si bien que les Philistins sont devenus jaloux et l'ont chassé. Et il a voulu utiliser à nouveau des puits que Abraham, son père, avait creusés. Mais quand il arrivait à enlever les gravats du fond du puits et à retrouver l'eau, les gens du coin venaient encore lui dire « Non, le puits là est à nous, va-t'en !» Et donc pour ses troupeaux, il avait beaucoup de difficultés. Mais un jour, Dieu lui apparaît en songe et lui assure de sa bénédiction. Et Isaac peut vérifier d'une double façon la bénédiction de Dieu dans le concret, parce que le chef des Philistins vient le voir en disant « Faisons la paix !» On va se mettre d'accord. Et puis, le même jour, ses serviteurs lui disent « on a trouvé l'eau ».
Oui, parce que l'eau, ça veut tout dire dans un pays aride.
Très important, oui, pour les hommes et pour les troupeaux.
Alors, on pense bien sûr aussi à Jacob.
Oui, et dans l'histoire de Jacob, avant celle de Joseph, il y a un épisode intéressant quand il revient en Canaan, donc dans la terre où Abraham était déjà présent. Et son oncle Laban le poursuit. Et ils se mettent d'accord finalement sur une frontière. Ils dressent un tas de pierres. Et Laban dit à Jacob, « Voici ce tas de pierres que j'ai jeté entre moi et toi. Voici cette stèle. Ce tas de pierres est témoin. Cette stèle est témoin. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction. » Et toi, tu jures de ne pas dépasser ce temps dans ma direction, et cette stèle sous peine de malheur. Que le Dieu d'Abraham protège le droit entre nous. Jacob offrit un sacrifice dans la montagne, il invita ses frères au repas, ils mangèrent le repas et passèrent la nuit dans la montagne. En fait, ce récit personnalise une réalité entre les Araméens et les fils d'Israël, la frontière entre les Araméens et les Israéliens.
Donc on parle là très clairement d'une frontière. Il y a deux pays, deux territoires, et il y a une frontière qui les sépare, et il y a presque un pacte de non-agression aussi.
Oui, et ça se retrouve souvent dans l'histoire, je pense pas seulement dans la Bible, que aux frontières, il y a des problèmes. Au Cameroun, j'ai connu des vols de troupeaux au Nigeria, ils disaient que c'était des voleurs camerounais. Au Cameroun, on disait que c'était des voleurs nigériens. Et dans l'histoire de Samson, on peut voir ces bagarres entre jeunes des deux côtés de la frontière qui se connaissent, qui se rencontrent, mais qui aussi se disputent à propos des jeunes filles ou bien à propos de territoire.
Est-ce ou que de la frontière... l'eau.
Ou de l'eau.
Surtout le l'eau, c'est très important. Alors, Père Yves Saoud, pouvez-vous nous redire un petit peu, en fait, ce territoire, en fait, au début, il n'y avait pas vraiment territoire, mais enfin, on va dire Canaan, la terre promise, elle se situe dans un lieu de passage, en fait. Ce n'est pas très simple, entre deux grandes puissances, et puis c'est un tout petit peuple, le peuple hébreu.
Ça se situe entre l'Égypte et les empires du Nord qui ont été d'abord les Assyriens et ensuite les Babyloniens. Puis il y avait le royaume araméen quand même autour de Damas qui était aussi assez puissant à certaines époques. Mais quand les armées du pharaon d'Égypte voulaient aller combattre les Assyriens ou les Babyloniens, ils devaient passer par le territoire d'Israël qui était l'ancien Canaan. Et quand les armées assyriennes ou babyloniennes voulaient aller attaquer l'Égypte, elles devaient aussi passer par le territoire d'Israël.
Donc ils étaient un petit peu écartelés, et j'allais dire pour être un peu tranquille, il valait mieux qu'ils soient sous la domination d'un des deux grands.
Certains rois ont voulu être plus indépendants, ne plus payer de taxes ou de tributs aux grands empires. Quelquefois des petits royaumes s'unissaient, comme les voisins d'Israël aussi de l'autre côté du Jourdain. Mais en général, ils n'arrivaient pas à résister aux grands empires.
Et puis, c'est aussi un peuple qui a vécu des exodes qui a été déporté aussi. Et donc, quand ils revenaient dans leur territoire, eh bien, il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées et qui avaient pris leur terre.
Oui, c'est un problème qu'on voit surtout dans le livre d'Esdras et de Néhémie, où ceux qui reviennent d'exil à Babylone trouvent évidemment leur champ occupé par d'autres, qu'ils appellent à ce moment-là le peuple du pays, le peuple de la terre. Ils disent, si Abraham, quand il est venu ici, était tout seul, nous sommes nombreux. On trouve ça dans le livre du prophète Ézéchiel. Et donc, nous avons le droit à cette terre.
Alors, bien sûr, on ne peut pas parler des questions de frontières, des questions de terre, sans penser à la terre d'Israël aujourd'hui. Et on sait combien, en Terre Sainte, c'est explosif. Encore aujourd'hui, donc ce sont des questions, la question de l'étranger, qui sont vraiment des questions fondamentales et encore actuelles.
Oui, je pense que tout en disant que Dieu veut qu'on aime l'étranger, il faut aussi ajouter que Dieu est content que chacun soit attaché à son territoire, à sa patrie, à son terroir, à sa coutume, aux traditions de son peuple. Quand il y a des peuples qui cherchent un territoire, comme c'est arrivé donc au peuple d'Israël après la dernière guerre, tous ceux qui revenaient en Israël, c'est sûr que ça pose de gros problèmes entre ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là.
Et est-ce que on peut dire que ce n'est pas anodin que ça se passe dans cette terre-là?
Je ne sais pas s'il faut y voir. En tout cas, avant de condamner soit les Israéliens, soit les Palestiniens, il faudrait se demander comment nous-mêmes nous vivons l'accueil de l'étranger et voir si nous sommes plus accueillants aux autres que ceux que nous critiquons.
Continuons avec vous, Père Yves Saoud a évoqué la figure de l'étranger dans le Premier Testament. Certains n'étaient-ils pas des réfugiés politiques tels que David, par exemple, qui a fui le roi Saül, qui voulait le tuer et qui s'est réfugié chez les Philistins? Ça existait déjà à l'époque, les réfugiés politiques, ça a toujours existé.
Ça a toujours existé et on a plusieurs cas dans le livre des rois et dans le livre de Samuel et dans Jérémie aussi, dans le livre du prophète Jérémie. David demande à un roi philistin de l'accueillir.
C'était les ennemis à l'époque, les Philistins.
C'était des ennemis, mais comme il fuit le roi d'Israël, Saül,
le premier roi d'Israël,
il se rend chez les ennemis en demandant l'accueil.
Une protection. Et comment il est accueilli?
Alors David se mit en route avec 600 compagnons et passa chez Achish, le roi des Philistins, l'un des rois des Philistins. David demeura auprès de lui, chacun avec sa famille. David dit au roi Achish, « Si tu m'es favorable, qu'on me donne quelques bourgs de la campagne et j'y résiderai. Pourquoi ton serviteur résiderait-il auprès de toi dans la ville royale ?» Aussitôt, Achish lui donna un village, et c'est pourquoi ce village a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. La durée du séjour de David dans la campagne fut d'un an et 4 mois.
Si on prend un petit peu autour de Salomon, après, on va retrouver aussi Jéroboam. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire?
Jéroboam, qui deviendra roi sur la partie nord du pays quand le royaume va se diviser en deux, Jéroboam a refusé d'être contremaître sur les corvées de ses frères. Parce que Salomon faisait travailler les gens du nord, mais pas sa tribu à lui, celle de Juda, qui était au sud. Et donc Jéroboam, qui était un grand jeune homme fort, a été remarqué par Salomon, qui a voulu en faire le contremaître des travaux sur ses frères. Jéroboam a refusé et s'est enfui en Égypte. Mais à la mort de Salomon, il est revenu et les gens du Nord l'ont choisi comme roi contre le fils de Salomon. Donc il y a eu un schisme à ce moment-là, une division du pays.
Alors si on revient encore à Salomon, il est très très connu pour le nombre incroyable qu'il avait de femmes et de concubines. Et à la fin de sa vie, il semblerait qu'il soit un petit peu assoupi et puis qu'il ait accepté que ses femmes aient leur propre dieu, parce que c'était souvent des femmes étrangères en fait qu'il avait. Et donc à la fin, il y avait un petit peu des dieux un peu partout, des temples à ses dieux.
Est-ce que c'était seulement à la fin de sa vie? Je ne sais pas, mais assez vite, en tout cas, il y a eu. Il a fait beaucoup de mariages diplomatiques avec une fille de Pharaon, une fille du roi de Tyr, donc les Phéniciens, et d'autres rois encore. Et de fait, ces femmes désiraient avoir un autel à leur dieu. Et donc Salomon a accepté et ça l'a entraîné lui-même dans l'idolâtrie. Il n'a pas renoncé au dieu de Moïse. Mais il adorait aussi les autres dieux que ces femmes avaient installés.
Là, ça pose précisément une question très importante. C'est l'accueil de l'étranger quand l'étranger n'est pas de la même religion. Parce que quand l'étranger est de la même religion, j'allais dire entre guillemets, c'est peut-être plus facile. Mais quand l'étranger arrive avec ses propres dieux, que dit la Bible?
On n'a pas beaucoup de cas. En général, ceux qui sont bien acceptés, en tout cas des personnages importants dans la Bible, se sont convertis au Dieu d'Israël.
Donc c'est plus facile, j'allais dire, dans ces cas-là.
Oui, c'est plus facile de les accueillir. Oui.
Parce que là, par exemple, les femmes étrangères, elles ne se sont pas converties.
Non, mais dans les lois au sujet de l'étranger, on dit que s'ils observent le sabbat, s'ils font la circoncision, ils peuvent résider en Israël, même sans faire la circoncision. S'ils font la circoncision, ils peuvent participer à la Pâque. Mais autrement, il y a des lois sur l'étranger résident. Alors, elles sont un peu plus sévères que pour les Israélites eux-mêmes. Par exemple, pour le prêt à intérêt, on dit qu'un Israélite ne doit pas faire de prêt à intérêt à l'un de ses frères d'Israël. Par contre, à l'étranger, il peut imposer un intérêt. Au bout de 7 ans, il ne peut plus réclamer la dette de son frère d'Israël, mais il peut réclamer celle de l'étranger. Donc il y a quelques différences, mais malgré tout, il y a des lois qui protègent l'étranger.
On peut retrouver par exemple dans l'Exode, au chapitre 22, verset 20, « Tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'émigré, car vous avez été des émigrés au pays d'Égypte. Mais aussi, on peut trouver dans d'autres livres de la Bible des choses moins sympathiques, comme dans le Siracide, par exemple. Alors, au chapitre 11, « Héberge l'étranger, il te jettera dans les tracas, il t'aliénera les tiens. » Ou encore, dans le Siracide au chapitre 8, « En présence d'un étranger, ne fais rien de secret, car tu ne sais pas ce qu'il pourra en tirer. Ne découvre pas ton cœur à n'importe qui, on ne t'en saurait aucun gré. »
Oui, mais l'étranger, là, dans le Siracide, donc 200 ans à peu près avant la venue de Jésus, c'est sans doute les Grecs qui dominaient à ce moment-là les fils d'Israël.
Ah oui, donc c'est plutôt un étranger oppresseur. C'est presque, j'allais
oui,
dire...
Oui, d'un grand personnage, sans doute, parce que le Siracide lui-même était un sage quand même important, un grand personnage qui a beaucoup voyagé, dit-il. Et donc, c'est peut-être des hauts personnages qui voulaient loger chez lui et qui ont provoqué des tracas.
Mais vous pensez qu'on peut dire que essentiellement dans le Premier Testament, la parole qui est donnée sur l'étranger, c'est « tu aimeras l'étranger comme toi-même » ?
Alors, les deux textes que vous avez lus dans l'Exode sont des textes du code le plus ancien de loi. Et c'est repris dans les codes plus récents, comme « tu ne biaiseras pas avec le droit d'un émigré ou d'un orphelin ». »« Tu te souviendras qu'en Égypte, tu étais esclave. » »« Si tu fais la moisson dans ton champ et que tu oublies des épis dans le champ, tu ne reviendras pas les prendre. » Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Quelquefois, il est en troisième lieu, la veuve, l'orphelin et l'émigré. Ici, il est nommé en premier. De même, si tu gaules tes oliviers, tu ne reviendras pas faire la cueillette jusqu'au bout. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Si tu vendanges ta vigne, tu n'y reviendras pas grappiller. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. »